Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Soutenant l'équipe indonésienne à l'Open du Japon, l'ambassadeur a déclaré que le sport fait partie de la diplomatie ». Le président Jokowi a exprimé sa gratitude pour le prix décerné par le président palestinien. Le premier ministre albanais défend la politique des visas pour que le gazouille puisse entrer en Australie. Le ministre de l'Agriculture déclare que le Kalimantan central pourrait être la solution alimentaire de l'Indonésie. Pékin a de nouveau demandé aux États-Unis de ne pas s'immiscer dans les affaires maritimes sino-philippines. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. L'ambassade de la République d'Indonésie à Tokyo soutient pleinement l'équipe indonésienne lors du championnat du monde de badminton, l'Open du Japon 2024, car le sport est une partie importante de la diplomatie. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Japon, Heri Ahmadi, à Tokyo mardi dernier. Heri a assuré que son parti était prêt à apporter son soutien aux athlètes, entraîneurs et officiels lors de l'Open du Japon 2024. Le tournoi annuel de l'Open du Japon se tiendra cette fois-ci du 20 au 25 août 2024 à Yokohama, Kanagawa, au Japon. Ce championnat fait partie de la série BWF World Tour Super 750 avec un prix total de 850 000 dollars américains, soit l'équivalent de 13,1 milliards de roupies. L'Open du Japon 2024 sera le premier tournoi de badminton du BWF World Tour à être organisé à nouveau après les Jeux Olympiques de 2024. Le président Joko Widodo, sur son compte Instagram, @jokowi, suivi par Antara, mardi a exprimé sa gratitude pour la plus haute distinction Grand Collar Order of the State of Palestine, qui a été remise par l'envoyé spécial du président de Palestine, Riyad al-Maliki. Les prix ont été remis au Palais Merdeka Jakarta lundi dernier. Ce prix a été décerné en guise de reconnaissance du soutien constant de l'Indonésie à la lutte du peuple palestinien pour l'indépendance. Le président Joko Widodo a déclaré sur son compte Instagram que ce prix était un hommage à l'engagement des dirigeants mondiaux et des personnalités influentes, notamment le roi Salman d'Arabie Saoudite, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, qui ont également déjà reçu des prix similaires. Le président a souligné que l'Indonésie soutient fermement la lutte palestinienne pour la reconnaissance internationale à l'adhésion à part entière à l'Organisation des Nations Unies. Le premier ministre australien Anthony Albanese a défendu la politique de son gouvernement consistant à délivrer des visas aux Palestiniens fuyant Gaza. Il a fait cette déclaration mardi en répondant aux appels de l'opposition pour interdire l'arrivée des Palestiniens de Gaza, frappés par la guerre entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas. Selon Albanese, il fait confiance aux agences de sécurité qui sont toujours impliquées dans le processus de délivrance de visas aux Gazaouis. Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a appelé à l'arrêt de la migration en provenance de la région côtière palestinienne assiégée, arguant que l'arrivée des personnes en provenance des zones de guerre vers l'Australie mettrait en danger la sécurité nationale. À ce jour, 2922 visas ont été accordés à des Palestiniens en fuite, dont 1300 sont arrivés sains et saufs en Australie, selon les données du ministère australien de l'Intérieur. Les données montrent également que 7100 visas en provenance des territoires palestiniens ont été refusés. Le ministre de l'Agriculture, Andy Amran Suleiman, a déclaré que la province de Kalimantan Central pourrait être une solution future à divers problèmes alimentaires en Indonésie. Lors de la réunion de coordination pour l'expansion de la zone de plantation et l'optimisation des terres marécageuses avec le gouvernement du Kalimantan Central et d'autres parties prenantes à Palangkaraya, mardi, Andy Amran a évalué que le Kalimantan Central avait un grand potentiel avec un programme d'optimisation des terres et la plantation de 500 000 hectares de champs de riz. Il a admis qu'il était optimiste quant au potentiel de l'Indonésie à devenir le panier alimentaire mondial. En fait, dans un avenir proche, l'Indonésie pourra atteindre l'autosuffisance et couvrir la pénurie alimentaire actuelle qui s'élève à 4 millions de tonnes. Selon Amran Suleiman, la collaboration entre la programmation et les parties concernées a été extraordinaire à Kalimantan Central, où tous les programmes du ministère de l'Agriculture fonctionnent très bien. Cependant, il souhaite qu'un grand pas soit accompli pour que l'Indonésie devienne le panier alimentaire mondial. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'une conférence de presse à Pékin mardi 20 août, a de nouveau demandé aux États-Unis de ne pas intervenir dans la coalition des navires de garde-côte chinois et philippines en mer de Chine méridionale. Lundi, aux petites heures du matin, il y a eu deux collisions entre des navires des gardes-côtes chinois et les gardes-côtes philippines à Sabina Shoal, aux îles Spratly, qui font partie des eaux contestées des deux pays dans la mer de Chine méridionale. Les navires chinois sont délibérément entrés en collision avec deux navires des gardes-côtes philippines, causant des dommages structurels et mettant en danger la sécurité de l'équipage. En raison de cet incident, le département d'État américain a déclaré qu'il soutenait son allié, les Philippines, et a condamné les actions dangereuses de la Chine contre les opérations maritimes philippines en mer de Chine méridionale. La mer de Chine méridionale reste un point chaud pour les problèmes de la région, car la Chine revendique presque toutes les eaux de la mer de Chine méridionale. Les pays membres de l'ASEAN, à savoir le Brunei Darussalam, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines, revendiquent également cette région. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « La commémoration de la Journée nationale de lutte de la police ». Pour la première fois, la police nationale indonésienne, ou Polri, célèbre une nouvelle journée historique, à savoir la Journée nationale de lutte de la police, le 21 août 2024. Ceci est écrit sur la page humas.polri.go.id. La commémoration de la Journée nationale de lutte de la police a été instituée par le chef de la police nationale, le général Listio Sigit Prabowo, dans le décret du chef de la police nationale concernant la Journée nationale de lutte de la police du 22 janvier 2024. Le chef du Bureau d'information publique, la Division des relations publiques de la police nationale, Brigadier Général Polisi, Truno Yudo Wisnu Andiko, dans sa déclaration de dimanche 18 août, a déclaré qu'une cérémonie commémorant la Journée nationale de lutte de la police s'est tenue au monument de lutte de Polri à Surabaya le mercredi 21 août 2024. Le thème pour la Journée nationale de lutte de la police était avec l'esprit de la proclamation de la police de 1945. Polri accueille l'Indonésie dorée 2045. Désormais, chaque 21 août, la police nationale commémora la Journée nationale de lutte de la police. Cette date fait référence à l'événement de la proclamation de la police de la République d'Indonésie le 21 août 1945 qui a été réalisé par la police spéciale sous la direction de l'inspecteur de police de classe 1, Muhammad Yasin. Cet événement historique a eu lieu 5 jours après la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie, le 17 août 1945. Sous des drapeaux rouges et blancs, environ 250 membres de l'unité spéciale de police se sont rassemblés devant le quartier général de la police spéciale de la ville de Surabaya, Java Oriental. L'inspecteur de police de classe 1, Muhammad Yasin, a lu le texte de proclamation de la police, suivi par tout le personnel de la police spéciale. Ils se sont déclarés être la police de la République d'Indonésie. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'Indonésie venait de déclarer son indépendance, était occupée par les troupes japonaises et auparavant sous domination coloniale néerlandaise. La situation était vulnérable, étant donné que les colonialistes japonais étaient toujours en Indonésie, tandis que les colonialistes néerlandais tentaient de rentrer en Indonésie. Il faut donc du courage à la police pour affirmer fermement qu'elle fait partie de la République d'Indonésie. Leur lutte mérite d'être imitée par la police d'aujourd'hui. La détermination à servir la nation et l'État en maintenant la sécurité et l'ordre nécessite d'une lutte qui n'est pas facile. Au fil du temps, la criminalité devient plus variée et plus sophistiquée. La police nationale doit continuellement s'adapter à son époque. La police nationale a trois tâches principales, à savoir maintenir la sécurité et l'ordre, lutter contre la criminalité et protéger et servir la communauté. Ces trois tâches, si elles sont accomplies avec sincérité et sérieux, favoriseront le sentiment de sécurité dans la société et la confiance dans la police nationale. Espérant que cela répond aux attentes du chef de la police nationale, la commémoration de la Journée nationale de lutte de la police soit un moment de réflexion pour que la police nationale continue de lutter pour le maintien de la sécurité et l'ordre et servir de tout cœur la nation et l'État. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 août, la commémoration de la Journée nationale de la mer en Indonésie. Chaque 21 août, l'Indonésie commémore la Journée nationale de la mer. Cette date a été choisie pour honorer le succès de la marine indonésienne dans la récupération de la souveraineté maritime de l'Indonésie auprès de la marine japonaise le 21 août 1945.
L'Indonésie est connue comme un pays archipelagique avec près de 60% de son territoire constitué de mers qui doivent être protégées. Car l'Indonésie possède de vastes ressources naturelles provenant de ses océans. Historiquement, l'Indonésie comptait de nombreux grands royaumes maritimes qui ont apporté la prospérité à l'archipel, conduisant à une région florissante. Passons maintenant au 21 août 1995. Le 21 août 1995 est devenu un moment historique dans les relations entre la République d'Indonésie et les Pays-Bas. Ce jour-là, la reine Beatrix des Pays-Bas a effectué une visite d'État à Jakarta. Elle est venue rétablir les relations avec l'Indonésie. À ce moment-là, l'Indonésie est dirigée par le président Suharto. La République d'Indonésie a obtenu son indépendance le 17 août 1945 après avoir été colonisée pendant environ 350 ans par les Pays-Bas et 350 ans par le Japon. Cependant, la reconnaissance néerlandaise de la souveraineté de l'Indonésie n'a eu lieu que le 27 décembre 1947. Lors de sa visite, la reine Beatrix a reconnu que la République d'Indonésie était devenue indépendante le 17 août 1945. C'était la première fois qu'un monarque néerlandais reconnaissait officiellement la date de l'indépendance de l'Indonésie. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 août et la journée nationale de lutte de la police en Indonésie. Le chef de la police nationale, le général Listio Sigit Prabowo, a ratifié le décret du chef de la police numéro 95-I-2024 en instituant la journée nationale de lutte de la police qui est commémorée le 21 août de chaque année. La date était choisie pour marquer la proclamation de la police indonésienne réalisée par la police spéciale sous la direction de l'inspecteur de la police de classe 1, Muhammad Yassin, le 21 août 1945 à Surabaya. Cette proclamation de la police constituait une première étape importante qui comprenait le désarmement et l'expulsion des troupes japonaises vaincues. C'est aujourd'hui tard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Memory you have a-
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo, rencontre le premier ministre australien et le ministre de la Défense à Canberra. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, a tenu une réunion bilatérale avec le vice-premier ministre australien Anthony Albanese et le vice-premier ministre en tant que ministre de la Défense de l'Australie, Richard Marles, à Canberra, en Australie, mardi 20 août. Citant le site officiel du ministère de la Défense, mardi 20 août, à cette occasion, ils ont discuté de l'amélioration des relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre de la Défense Prabowo a exprimé son plus grand respect au premier ministre Anthony Albanese et à son équipe pour avoir accepté et accueilli l'arrivée de la délégation indonésienne. Dans une déclaration commune après la réunion, le ministre de la Défense Prabowo a déclaré qu'il appréciait vraiment les relations amicales entre l'Indonésie et l'Australie. Le ministre de la Défense a souligné que l'Indonésie se souvient toujours que l'Australie a été l'un des premiers pays à soutenir la lutte pour l'indépendance indonésienne. Prabowo a ajouté qu'il était déterminé à poursuivre encore mieux ses relations de bon voisinage. Il a apprécié que l'Australie joue un rôle très important pour l'Indonésie dans la plupart des domaines. Dans sa déclaration, le premier ministre Albanese a souligné qu'il n'y a pas de relation plus importante que celle entre les deux grands pays, l'Indonésie et l'Australie. Les deux pays continueront de renforcer leurs relations en tant que partenaires économiques, partenaires de sécurité et partenaires prêts à bénéficier de la transition mondiale vers zéro émission. Le premier ministre Albanese a également promis d'assister à l'investiture du président en octobre. Citant indonesia.embassy.gov.au lors d'une réunion avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense de l'Australie, il a annoncé que les négociations avaient été achevées pour faire évoluer la coopération de défense australo-indonésienne vers un accord de niveau traité. Faisant référence à la récente réunion, les ministres ont discuté des progrès réalisés dans le renforcement des liens bilatéraux en matière de défense dans divers aspects et domaines de coopération, notamment des liens éducatifs plus approfondis, ainsi qu'une coopération plus étroite dans le domaine de la sécurité maritime. L'Australie et l'Indonésie ont un engagement commun à créer une région pacifique stable, sûre et prospère où la souveraineté est respectée. L'Indonésie et l'Australie ont une vision positive et constructive de la région avec l'ASEAN au centre, ce qui exerce une influence stabilisatrice importante. C'est le talk, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Hold on, I think this man, should I believe you? Stop making noise, cause the cops are here, and I don't know what to do. I think that I would die without you. I think that I am falling for you. A simple equation of love wouldn't be so hard.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, Taman Sari Yogyakarta ou Taman Sari Keraton Yogyakarta et le site de l'ancien parc Uzak Dangdu Palenga Yogyakarta à Diningrat. Qui peut être comparé à Taman Sari Surakarta et au Jardin Botanique de Bogor, comme Jardin du Palais de Bogor. La première impression lorsque vous entrez dans Taman Sari est que c'est frais et calme. Presque loin, on entend le bruit de l'eau gargouiller. Le complexe Taman Sari peut être divisé en au moins quatre parties. La première partie est un lac artificiel situé à l'ouest. La partie suivante concerne le bâtiment situé au sud du lac artificiel, notamment les bains Umbul Binangun. La troisième partie est Pasarian Ledok Sari et le Tanggar Jitawati, situé au sud de la deuxième partie. La dernière partie est la partie orientale des premières et deuxièmes parties et s'étend de l'est au sud-est du complexe de Magangan. Taman Sari Yogyakarta est situé à Patehan, district de Kraton, ville de Yogyakarta, région spéciale de Yogyakarta. Ce lieu touristique est à seulement 1,6 km du point 0 km de Yogyakarta avec un temps de trajet de 6 minutes en véhicule. Le prix du billet d'entrée est relativement bon marché et vous pouvez y accéder à pied jusqu'à l'ensemble du complexe Taman Sari flanqué de zones résidentielles. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got. The very first day.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Saya selalu bangun pagi ».« Saya selalu bangun pagi ». Je me lève toujours tôt. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé « Saya selalu bangun pagi ».« Saya selalu bangun pagi », »,« Je me lève toujours tôt ». Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Naomi, une guide touristique dans un hôtel de Pangkalan Bun, dans le centre du Kalimantan. Chris informe Naomi de ses habitudes. Bonne écoute.
Maaf, Chris. Kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulées « Saya selalu bangun pagi ». Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. saya, je, selalu, toujours, bangun, se lever, berangkat, partir, pagi-pagi, tôt, melihat, voir, orang utan, tidak apa-apa, pas de problème, kalau begitu, donc, mari, allons. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la déclaration « Saya selalu bangun pagi », « Je me lève toujours tôt ». Dans cet énoncé, il y a l'adverbe « selalu ».« Selalu », »« toujours », ce qui signifie qu'il fonctionne pour marquer des activités qui sont devenues une habitude. Dans cette déclaration, l'activité habituelle de Chris est « bangun pagi ». Bangun pagi. En français, se réveiller tôt. Ou se lever tôt. Chers amis, écoutons un autre exemple d'utilisation de l'adverbe selalu. Selalu, toujours, pour marquer une activité devenue une habitude. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Je prends toujours mon petit déjeuner avant 8 heures. Chris selalu membawa motornya kemanapun. Chris emmène toujours sa moto partout. Chers amis, pour exprimer des informations temporelles, il existe plusieurs expressions couramment utilisées par les Indonésiens. Ces expressions incluent dini hari, tôt le matin, pagi-pagi, tôt le matin, siang bolong, midi, et larut malam. Tard dans la nuit. L'expression de la description de l'époque a des nuances de sang, sangat, en français très ou trop. Chers amis, avant de terminer à apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Maaf, Chris. Kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Bon, chers joueurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Thank you. setiap perjalanan cinta. Lihatlah diri ini untuk kali ini, tak bisa ku miliki, ku relakan semua. Ku mohon kepadamu di kehidupan baru, izinkan ku jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia. Ku temani dirimu, menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku. Ku jadi takdirmu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Menemukanmu dari dulu. Oh, dalam hidupku. Oh. Dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah. Pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Dunia mulai datang menyapa, dan apapun yang akan terjadi selalu bersama. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Oh dari dulu. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers auditeurs, nous allons vous donner la chanson de la province de Jambi intitulée Ketimun Bungkuk. La chanson Ketimun Bungkuk a été composée par Yahya. Cette chanson raconte d'un malheureux. Le malheur est comparé à un concombre bossu, un concombre qui ne rentre pas dans la balance, ne compte pas et encore moins dans la vaisselle. La chanson Ketimun Bungkuk vous invite en effet à rester optimiste et plein d'espoir. Demain, le coq chantera encore et après la nuit, le jour viendra. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Ketimun Bungkuk de Nana Sabrina. Bonne écoute!
C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.